France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Libé, un roman vrai. Chapitre 6, la gauche Libé. Pendant 10 jours, le président hésite. En mars 1983, voilà 2 années que François Mitterrand est à l'Élysée. Dans les premières années de son mandat, il a augmenté le SMIC de 10%, abaissé l'âge de la retraite, porté les congés payés à 5 semaines et opéré une relance keynésienne de l'économie. Mais cette politique n'atteint pas les résultats attendus sur le plan économique. On observe en effet une fuite des capitaux à l'étranger, la balance commerciale s'effondre et le gouvernement doit procéder à 3 dévaluations successives. Pendant 10 jours donc, Mitterrand hésite. Doit-il poursuivre la politique sur laquelle il a été élu ou choisir une option plus libérale, économiquement plus orthodoxe, le fameux tournant de la rigueur? À Libération, le virage de la normalisation a déjà été pris 2 ans plus tôt. Souvenez-vous, c'est le moment où Serge July a réussi à convaincre toute la rédaction de démissionner et qu'il n'a pas réembauché tout le monde par la suite. Durant ces 10 journées électriques où se joue l'avenir du pays, Serge July commente, dans ses éditoriaux, les hésitations du président de la République. Et quand Mitterrand choisit finalement de prendre le tournant de la rigueur, July ne s'en félicite pas clairement. Par quel malin génie, feint-il de se demander, François Mitterrand peut-il s'imaginer que le peuple de gauche va se convaincre que c'est bien la continuité qui l'emporte? Et pourtant, on peut considérer que François Mitterrand et Serge July ont suivi le même chemin, celui qui va d'une idéologie de gauche affirmée à un recentrement relatif. À Libé, comme au PS, il n'est plus question de changer la vie, mais plutôt de réussir dans la vie. Mais quel a donc été le lien entre ce journal et la gauche socialiste dans les années 80 et 90? Y a-t-il eu connivence ou méfiance, adhésion ou répulsion? Surtout, le parcours de Libération n'est-il pas parallèle à celui de la gauche socialiste, flamboyant dans les années 80, puis déclinant après 2002 et surtout après 2017? Quand Libé abandonne l'idée révolutionnaire pour l'esthétique de la subversion, n'est-il pas précurseur de ce que l'on va appeler la gauche caviar, cette gauche des discours généreux, mais éloignée des classes populaires? C'est ce que nous allons nous demander dans cet épisode, en même temps que nous parlerons du moment Libé 3, cette tentative ratée de relance du titre en 1993, dont il ne s'est jamais tout à fait remis.
Voilà, quand on prend la période récente, donc c'est Mitterrand. D'autant, c'est une formule, mais enfin, je crois qu'elle est assez juste, c'est que le président des années 80, c'est Mitterrand. Ça ne va pas de soi. Et puis on se dit, oui, mais finalement, c'est vrai, puisqu'il est arrivé en 81, il est là pour 7 ans, il va rester jusqu'en 88, il aura fait quasiment la décennie. Voilà, c'est un état de fait. J'ajoute un deuxième élément, si vous voulez, en ce qui concerne Mitterrand, c'est que... Moi, je crois qu'on est dans une période de mutation très forte. Alors, mondiale, mais aussi de la société française, très grande. Je ne n'irai pas prétendre que c'est grâce à lui. Je veux dire, cette mutation, elle est. Alors, ce qui m'intéressait de savoir, c'est là-dedans, quel rôle il jouait. Est-ce qu'il avait un rôle contraire, d'obstacle, ou de favorisateur, enfin d'éléments favorables, enfin d'éléments qui activaient, qui accéléraient les choses. Voilà, donc je trouve que les personnages qui sont pris dans des périodes de mutation très fortes sont des personnages très intéressants.
Le 25 mars 1986, date de cette archive, Serge July vient de publier un livre intitulé « Les années Mitterrand, histoire baroque d'une normalisation inachevée ». Dans cet ouvrage, le directeur de Libération salue la trajectoire idéologique du président de la République. Il a su passer, pense-t-il, d'une idéologie généreuse, mais illusoire dans le contexte international, à un socialisme normalisé. Pour July, François Mitterrand a eu un rôle positif, comme il le dit dans l'archive. Il n'a pas fait obstacle à l'adaptation de la France au nouveau contexte international. Il a fait le choix de poursuivre la construction européenne et de s'adapter à la vague libérale. Serge July peut donc se retrouver lui-même dans le parcours de son personnage. Éric Hichimann, vous êtes journaliste au Nouvel Obs après l'avoir longtemps été à Libération. Vous êtes notamment l'auteur du livre Libération et ses fantômes, publié au Seuil. Un commentaire d'abord sur ce que Serge Julie disait au sujet de François Mitterrand dans l'archive qu'on vient d'entendre.
C'est fascinant cette archive parce que vraiment il y a tout Serge. Il résume vraiment son intérêt. Ce qui le fascine, c'est un personnage dans une période de mutation.
Avec une identification, plus ou moins, entre lui et le personnage de François Mitterrand?
À l'évidence. Il y avait un effet miroir. La normalisation de Mitterrand, c'est aussi celle qui l'a menée à Libération. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut déduire de plus de cet effet de miroir? La Libération n'est pas une invention de Mitterrand. C'est pas le Matin de Paris qui a vraiment été créé par Claude Perdriel, et c'était d'ailleurs public, pour soutenir Mitterrand. Libération, c'était vraiment une histoire qui est venue converger avec celle de Mitterrand, puis qui a d'ailleurs divergé après. Et dans les années 90, je peux témoigner, parce que j'étais journaliste politique et que je suivais Lionel Jospin, Premier ministre, pendant les 5 ans où il a été à Matignon, que pour Matignon, on n'était pas un allié. Ils étaient très agacés, ils nous ont même
convoqués pour vous engueuler.
Enfin, j'avais organisé une rencontre, mais on s'est fait engueuler à cette occasion. Et Lionel Jospin avait dit comme ça de but en blanc, oui, vous êtes un journal aigre, rance et rétréci. Ce qui voulait dire, vous êtes des vieux 68ards accrochés à vos illusions.
Retour en arrière. Le 10 mai 1981, la gauche vient de prendre le pouvoir en France. Le même jour, un jeune homme de 28 ans vit son premier jour de travail à Libération. Il s'appelle Laurent Geoffrin. Venu de l'AFP, il a pour mission de créer un tout nouveau service dans le journal, le service économie. Il va le faire avec Pierre Briançon, 28 ans également. La mise en place de ce service marque une petite révolution. Pour les journalistes de Libé, en effet, l'économie jusque-là, c'était avant tout le social. Mais avec Geoffrin et Briançon, la vie des entreprises fait son entrée dans les colonnes du quotidien, tout comme des théories économiques favorables à la logique du marché. Dans le même temps, les luttes sociales continuent d'être relatées dans le journal et bien souvent soutenues. Mais la nécessité de s'adapter au temps nouveau de la mondialisation ne fait plus tabou. En 1984, Libération s'associe aux éditions du Seuil et à Antenne 2 pour produire une émission intitulée « Vive la crise ». Elle est présentée par l'acteur Yves Montand avec des apparitions de Christine Ockrent. La ligne éditoriale de ce programme a surtout été pilotée par ce nouveau service économique de Libé, c'est-à-dire par Geoffrin et Briançon. Et le sous-texte de l'émission est le suivant: tout devient possible si on s'en donne les moyens. Pour réussir, il suffit de libérer l'initiative individuelle et l'ambition personnelle. À la fin d'1h30 appuyant cette démonstration, Yves Montand conclut de cette manière.
Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous. Et vous seul qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt.
Éric Hichimann, quelle réaction à cette archive de Vive la crise, une émission écrite donc par le service économique de Libération en 84?
Ah oui, c'est vraiment stupéfiant, parce que là, on est dans un coup de barre là vers l'individualisme et l'entreprise individuelle. C'est saisissant. Ça reflète de la part de Serge Julie quelque chose qui était une des grandes qualités et un des grands défauts de Libération, c'est que tout était possible. Donc si on voulait donner un coup de barre dans un sens, on y allait, et je pense qu'on leur a fait totalement confiance à l'époque, et ils sont allés...
Donc ça c'est vraiment le service économique, c'est pas Serge Julie pour vous qui a organisé cette émission?
Moi je vois plus...
Laurent Geoffrin.
Laurent Geoffrin et Pierre Briançon à la manœuvre sur l'écriture, mais là il faudrait un travail d'enquête pour reconstituer, mais je vois pas Serge se... Quand un truc était lancé, encore une fois, il supervisait pas de façon tatillonne. Hein. Bon, faut dire, on en est revenu assez vite. Hein. Moi, je suis arrivé en 90. Je pense qu'en 90, il y avait plus grand monde qui disait ça au service éco. Et en 92-93, plus personne. Donc, bon, il y a une espèce de backlash anti-communiste, anti-marxiste, anti-gauchiste, très violent, mais on en est revenu.
En même temps, Laurent Geoffrin a succédé à Serge Julie à la tête de Libération. Est-ce que ça raconte quelque chose, finalement, de l'évolution du journal ou de l'évolution de la ligne du journal?
Oui, mais je pense que Laurent Geoffrin ne dirait pas ça aujourd'hui. C'est vous et vous seul. Là, vraiment, on est dans une extrême, hein, dans une caricature. Mais encore une fois, dans ces histoires collectives, faut pas avoir un excès de cohérence. Hein. C'est la vie, et puis un quotidien. Ça produit beaucoup de contenu, ça laisse beaucoup de place, et il faut rentrer
dans
le contenu.
Il faut pas faire du cherry picking, il faut pas juste choisir ce qui nous intéresse.
Voilà,
c'est ça que
voilà.
Vous dites.
Et si vous pouvez trouver des choses sur le social, des enquêtes passionnantes qui ont été portées, je suis sûr, cette même année-là, dans le journal, en tout cas moi quand j'y étais, il y avait de très très belles enquêtes.
Le Libération des années 80 semble parfaitement en phase avec son époque. On l'a dit, avec 195 000 exemplaires vendus chaque jour en 1988, le journal a trouvé sa place et Julie prédit que bientôt, ses ventes dépasseront celles du journal Le Monde. C'est l'époque des tentatives de diversification. Avec Libé Lyon et Libé Marseille, ils tentent de se décliner en édition locale sans succès. Des tentatives ont lieu pour créer une radio et une maison de production audiovisuelle, deux échecs également. Tant que le journal va bien, ces tentatives ratées ne posent pas de vrais problèmes. C'est au moment du déclin des ventes que les voyants vont passer au rouge. 4 ans après leur pic de 1988 en effet, les ventes se tassent. Internet commence à émerger, les chaînes de télévision se multiplient, l'environnement n'est plus le même. Serge Julie aurait alors pu choisir d'adapter son titre à la nouvelle donne des médias, mais il fait un tout autre pari. Peut-être veut-il faire mentir la malédiction que l'écrivain Marcel Joindot avait jetée sur les jeunes de mai 68 en prédisant qu'ils finiraient tous notaires. Julie, qui ne veut pas se notabiliser, décide de faire tapis. Il remet tout en jeu dans le journal. C'est alors que survient un événement dramatique qui prend des airs de mauvais présage. Le 1er janvier 1993, Serge Julie roule sur la route qui relie Saint-Rémy-de-Provence à Tarascon. Un jeune ouvrier marocain s'y trouve également et circule en mobylette. Alors qu'il arrive à sa hauteur, Julie perd le contrôle de sa voiture, fait une embardée et s'écrase sur un platane. Le jeune homme, pris dans l'accident, succombe à ses blessures. Serge Julie, lui, en réchappe, mais son visage est abîmé. Il doit même être reconstruit. Et ce n'est que 3 mois plus tard qu'il peut recommencer à revenir au journal, travailler sur l'ambitieuse nouvelle formule intitulée « Libé 3 ». La révolution Libé 3 a commencé par un drame et jusqu'à la fin, rien ne va se passer comme prévu.
Voilà, et dans l'univers lui aussi impitoyable de la presse, le quotidien Libération sort ses crocs et une nouvelle formule pour reconquérir un lectorat qui a, semble-t-il, vieilli avec le journal. Oublié mai 68, Libé 3 sort demain. En avant-première, Florence Zouabi et Pascal Puyot.
Il a grossi, il pèse désormais 80 pages, il a grandi, il mesure 5 cm de plus, il s'est coloré, bref, Libé a mûri. La fougue contestataire de l'après 68, la période phare des années 80 qui voyait Libé faire ou défaire la mode, ne sont plus que les souvenirs d'un quotidien qui stagne à 175 000 exemplaires. Libération change donc de peau, une mutation en profondeur avec l'espoir de séduire en particulier les jeunes et de fidéliser les lecteurs occasionnels.
On traite absolument de tout ce qui constitue notre vie à tous, notre vie à la fois quotidienne, mais notre vie publique, pas simplement les événements politiques ou économiques, mais y compris les problèmes d'entreprise, les problèmes de vie quotidienne, les problèmes d'école, les problèmes de manière avec laquelle on se couche.
L'idée de Libé 3 était de passer d'un quotidien à un multi-quotidien. Autrement dit, plusieurs cahiers vendus ensemble comme autant de journaux, mais en un seul. Les habitants de Paris avaient ainsi droit à 4 cahiers. Une édition francilienne, un journal économique, un journal culturel, tout cela en plus de leur quotidien habituel. Pour faire face à cette masse de textes à écrire chaque jour, la rédaction passe à 500 journalistes. Éric Eschiman, Libé 3, c'est plus qu'une simple nouvelle formule de Libération, c'est vraiment une renaissance totale du quotidien, une révolution à l'image de ce que Libé 2 avait été en 1981.
Libé 3, en fait, courait après plein de modèles.
Et des modèles anglo-saxons en particulier.
Alors Serge Ulli était fasciné par les modèles anglo-saxons. Donc l'idée d'un gros quotidien avec des cahiers qu'on jette comme ça quand on n'est pas intéressé, c'était vraiment c'était ça son modèle. Et vous avez, à un moment là dans l'archive, on entend dire qu'on s'intéresse à aux choses les plus concrètes, et ça se termine par y compris la façon dont on se couche. Et ça m'a fait ressurgir un vieux souvenir quand il nous a présenté le projet de Libé 3. Je me souviens, c'était dans une salle à Beaubourg. Il avait donné comme exemple pour ses pages qui s'appelaient les pages vous une enquête qu'il avait lue dans le New York Times ou le Washington Post, un des deux, sur le matelas. Il avait dit, j'ai lu une page entière sur le matelas, les techniques, les innovations, c'est absolument passionnant. Ben, prenez, bon, voilà, y compris, je veux dire, vous imaginez les tics comme ça. Et je crois qu'il courait comme ça après des choses qu'il avait vues, il avait envie de se les approprier, presque de les ingérer. Là, je pense qu'il y a eu de la part de Serge une espèce de oui, il a un peu les yeux plus gros que le ventre. Il fallait stabiliser le Libé 2, le poser, les ventes stagnaient. Enfin, en fait, il y avait cette idée qu'il fallait jamais s'arrêter. Soit on allait rattraper le monde, soit on créait des télés, des libés, des suppléments régionaux, soit Libé 3, alors que je crois qu'il aurait été sage et politiquement utile, parce que c'est quand même ça aussi le rôle d'un journal, de stabiliser, de renforcer tranquillement, plutôt que de viser cette expansion.
Après l'accident de Julie, un autre présage place Libé 3 sous d'inquiétants auspices. Dans son livre sur Libération, Jean Guinel raconte que le soir du lancement de la nouvelle formule, 2000 invités étaient réunis devant le palais de Chaillot à Paris. Des ouvriers s'affairaient à installer un panneau géant représentant la une du lendemain. Or, au moment où il dévoile cette une, on se rend compte qu'elle représente un avion qui s'écrase. Le crash, symbolique celui-là, a effectivement lieu quand il faut annoncer aux 2000 invités auxquels on doit distribuer les premiers exemplaires imprimés du journal qu'ils n'arriveront jamais jusqu'au palais de Chaillot, ils se sont perdus sur la route.
Faut pas faire des mélanges. Après, t'as une barre là. Pas chercher plus loin. À quoi qui ressemble sa nouvelle formule de Libé à comment la cherche ?
La voilà.
Ah ouais. À ce point-là, hein. Ah, quand même, c'est les mélanges. Hein. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui tenait, dites-donc.
L'échec de ce nouveau Libé est patent dès les premiers jours. Les habitués le trouvent trop gros. Au lieu de jouir de son abondance, ils s'agacent de ne pas pouvoir le terminer. Le lectorat habituel est déjà habitué à suivre l'actualité auprès de diverses sources. Il n'a pas demandé un journal si obèse. 5 mois plus tard seulement après son lancement, le rideau de Libé 3 est tiré.
C'est un échec. Le nouveau Libé, lancé le 26 septembre, perd 12 millions de francs par mois. Son patron Serge Julli a annoncé ce matin un plan de rigueur. En clair, une centaine de licenciements. De quoi réduire Serge Julli au silence. Merci.
On voudrait voir M. Julli, c'est pas possible.
Vous l'appelez, madame, par téléphone. Vous demandez qu'on vous le passe.
En écoutant cette archive, l'impression qui me vient le plus, c'est qu'est-ce que Serge a voulu noyer en faisant ce journal total ? Quand on dit qu'on va parler de tout, au fond, on décide de parler de renoncer à parler de quelque chose.
Mais c'est-à-dire que chacun peut choisir ce qu'il souhaite lire.
Oui, chacun peut choisir ce qu'il sait lire.
Mais ça, finalement, c'est assez moderne, puisque aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un peu ce qui se passe.
Oui, mais enfin, les sources d'émission des réseaux sociaux, au contraire, c'est des gens extrêmement affirmés. On est de plus en plus dans le personal branding. Dans tous les médias, on met en avant les rédacteurs, on essaie de créer du lien, etc. Et les journaux anglo-saxons qui marchent bien, comme le New Yorker, avec des signatures très identifiées. Là, on a voulu, Serge a voulu, noyer le poisson. Voilà, qu'est-ce qu'il a voulu noyer ? Donc, je pense qu'on s'est, je poursuis ma métaphore, mais on s'est tous sentis comme des petits chatons qui risquaient d'être noyés. Donc, il y a eu assez de gens qui sont partis. Il n'y a pas eu de gens qui ont été poussés dehors dans mon souvenir. Mais je crois que oui, il y a eu quelque chose qui s'est cassé dans la confiance envers Serge Julli, envers nous-mêmes. Ensuite, très vite, dans mon souvenir, on est redevenu un Libé 2 avec son efficacité, sa plasticité, sa légèreté. C'était une belle machine. Et moi, je me souviens d'années vraiment agréables jusqu'au milieu des années 2000 où, au fond, l'épisode s'est vite refermé.
Mais peut-être que tout l'argent qui a été investi dans ce Libé 3, c'est autant d'argent qui n'a pas été investi dans le numérique et qui peut-être a manqué plus tard.
Ça, c'est sûr.
L'aventure Libé 3 a laissé le journal exsangue. Tout comme la rédaction papier, les services numériques souffrent de la déconfiture de la nouvelle formule. Tout l'argent dépensé dans la relance du titre, c'est autant de fonds qui vont manquer au développement sur le web. Et pourtant, Libération avait été pionnier dans les services numériques. Archives France Inter, du 30 novembre 1983.
8h18.
Notre confrère Libération vient de lancer un journal télématique, un quotidien réalisé grâce au Minitel, le fameux petit écran révolutionnaire que l'on branche sur sa propre ligne téléphonique. Le système mis au point par Libération devrait bientôt toucher 50 000 personnes dans la région parisienne. Pour le prix d'une communication téléphonique, il suffit de composer un numéro d'appel spécial pour consulter le journal du jour. Dès 21h, le journal télématique reproduit les titres de la une de Libération, disponible le lendemain matin dans les kiosques. En plus, le Minitel transmet une sélection des programmes de la télévision, de la radio, des spectacles et un choix de livres récents. Jean-Marcel Bouguereau, qui a mis au point le quotidien télématique de Libération, explique à Françoise Gaujour comment fonctionne ce petit ordinateur.
C'est tout bête, hein. Il y a un tout petit écran avec un petit clavier qu'on peut louer et avoir chez soi pour la somme de 60 ou 70 francs, quelque chose donc de relativement modique. Ce clavier marche très simplement, on apprend son fonctionnement en 5 minutes, il faut appuyer sur des touches et on a, en fonction d'un sommaire préétabli, ce qu'on veut, aussi bien, je vous dis, la météo, les pronostics hippiques, les dernières nouvelles, en plus, qui sont actualisées dans la journée. On peut donc, chez soi, consulter très rapidement ce petit écran.
Éric Eschiman, un petit mot sur cette archive.
Alors, je ne connaissais pas cette histoire-là. Au fond, je me dis, il y a eu un petit tropisme technophile dans l'histoire de Libération. Une fascination. Alors, c'est très intéressant, c'est très créatif. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça détourne de ce qui, pour moi, est le fondement essentiel d'un journal, c'est de contribuer à la vie publique. Donc, voilà, pourquoi pas. Mais prendre autant d'avance, bon, visiblement, ça n'avait pas duré. Et puis, si on le met en série avec les autres choses qu'on vient de voir, que d'énergie passée dans les tuyaux au lieu de se demander ce qu'on mettait dans les tuyaux.
Pendant plus d'une décennie encore, Serge Julie reste à la tête du journal, avant d'être débarqué, nous l'avons dit, par l'actionnaire qui l'a fait entrer au capital, Édouard de Rothschild. Sur France Culture, de nombreuses émissions sont consacrées à ce qui ressemble à un changement d'époque, et Jean Lebrun interroge sur le sujet le jeune rédacteur en chef d'une revue aujourd'hui défunte, Le Tigre. Son nom est Raphaël Melt.
Souvent, les journalistes de votre âge, et notamment ceux qui sont journalistes en ligne, considèrent que les rédacteurs en chef à l'ancienne n'ont plus pour avenir que d'enfiler leur imperméable et de s'enfoncer, indemnité ou pas, dans la poche, dans la nuit de l'oubli. Quand vous décomposez dans Le Tigre, Raphaël, une de Libé, vous êtes extrêmement sévère avec les expériences bimédias que Libé tente et qui ont pour prolongement papier le nouveau supplément qui s'appelle Écran, le supplément du samedi et qui vise à mettre en valeur, comment dire, le netizen, vous savez, le citoyen sur le net.
En fait, on est reparti d'une rubrique qu'ils avaient fait en 73, donc le tout premier Libé, qui était une autopsie d'une une du Parisien de l'époque, et qui était extrêmement insolente et pleine de mauvaise foi. Donc on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que nous, on ne fasse pas la même chose. On a pris une là, il y a quelques jours, et puis on a décodé, on a montré justement toutes les dérives de ce que c'est que le Libé d'aujourd'hui, par opposition à ce qu'eux dénonçaient. En 73.
Alors, le supplément Écran, là, qui vise à fidéliser des lecteurs d'une nouvelle génération qui utilisent jeu vidéo, les PlayStation. Qu'est-ce que vous dites de ce supplément? Que c'est ridicule, enfin que...
C'est surtout une espèce de geste pseudo-commercial, mais qui, au bout d'un moment, n'a plus de sens. Ni politique ni même intellectuel, c'est-à-dire que c'est un attrape-pub, quoi, comme tous ces suppléments que font les journaux en magazine, c'est-à-dire
un attrape-pub.
Oui, c'est-à-dire qu'on monte ça pour aller démarcher des annonceurs parce qu'on le fait sur papier couleur, donc c'est plus facile de mettre des pubs et puis c'est plus facile de trouver des pubs dans les domaines des nouvelles technologies que dans d'autres.
Avec Eschiman sur cet archive.
C'est sévère, hein. C'est excessivement sévère. Bah non, Écran, ça prenait acte d'une réalité. Il a même d'ailleurs nommé, moi je me souviens, c'est la première fois que je fais le lien entre la télé, le téléphone portable, etc. Ça a la vertu de nommer. C'était sûrement la publicité rentrée dans l'équation dans la mesure où, de toute façon, on était un journal qui bouclait ses fins de mois avec de la publicité. On avait fait ce choix-là en 82, mais enfin, c'est le cas de tous les journaux, à ma connaissance, à part le Canard enchaîné et le Diplo. Donc je trouve ça très sévère. Encore une fois, pour moi, s'il y a un reproche et une leçon à tirer de Libé, elle n'est pas là, elle est politique. Les enjeux techniques de diffusion, etc., c'est intéressant, c'est utile, mais ça ne peut pas occuper la première place.
Pour finir, est-ce que vous pouvez commenter une phrase que j'ai trouvée dans votre livre ? De la mort de la Révolution à l'adoration des médias, voilà un résumé possible de l'histoire de Libération.
Libération, ça a été conçu comme tel par ses fondateurs de la gauche prolétarienne, c'est une substitution. On croyait en la Révolution, pour différentes raisons, on estime qu'elle n'est pas possible ou qu'il faut y renoncer. Donc, première discussion à avoir quand même. Et il y a même un moment où je cite Foucault qui dit « faut abandonner l'espoir ». Ouais, ben je sais pas. Donc premier désaccord, révolution, espérance, horizon. Moi, je trouve que c'est des beaux mots et c'est des cadres utiles. Et on le remplace par la passion de la description du réel. Et ça, moi, je l'ai, la passion de la description du réel. Simplement, je pense que les deux ne sont pas antinomiques ou exclusives. Donc, je pense qu'on peut aimer passionnément décrire le réel tout en ayant, désirant ardemment un horizon de grand changement, donc un horizon révolutionnaire. Et c'est les avoir mis en exclusif l'un de l'autre qui, pour moi, est au fond, est l'erreur de cette histoire-là.
En 2020, l'actionnaire principal de Libé, Patrick Drahi, décide de loger le quotidien dans un fonds de dotation à but non lucratif doté de 50 millions d'euros. Autrement dit, le milliardaire n'a plus vraiment la propriété du journal, lequel devient du reste impossible à vendre. La gouvernance revient donc à la rédaction, ainsi qu'à des membres d'un comité extérieur présidé par Denis Oliven. Depuis, la rédaction a été largement rajeunie. Et entre les anciens, détenteurs de l'histoire longue du titre, et les nouveaux, qui veulent inventer un Libé qui leur corresponde, se rejoue peut-être l'une des nombreuses oppositions internes qui ont fait la vie du journal. Mais rien, cela dit, qu'une assemblée générale à caractère révolutionnaire ne saurait régler.
Acheter Libé, ça disait quelque chose de vous, à vous-même, c'était pas qu'une posture. Et moi, je me souviens avoir été un lecteur passionné, quoi. Il fallait que j'aie mon Libé le samedi matin, sinon mon week-end il manquait quelque chose d'important. Et je pense que j'ai retrouvé ça quand j'ai essayé pour faire ce livre de creuser l'histoire des fondateurs de Libération, que dans l'histoire du gauchisme et de Libération, il y avait cette quête d'un frisson qui venait de la Deuxième Guerre mondiale, de cette résistance à laquelle on avait été trop jeune pour participer, qu'on avait un peu essayé de reproduire en 68, et que finalement, on avait fini par matérialiser dans cette aventure de presse.
C'était Libé, un roman vrai, une série de Salles des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Corner et Anne-Vanessa Prévost. Prise de son, Claire Levasseur. Documentation INA, Hervé Evano. Documentation musicale, Antoine Vuillouse. Thank you.